de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Corona augmente, le premier ministre canadien menace d'annuler les célébrations de Noël ». L'Organisation mondiale de la santé a approuvé le vaccin antipoliomyélitique fabriqué par Biopharma pour une utilisation d'urgence. En prévision du cyclone Vamco, des milliards de Vietnamiens ont évacué. Idea Group Bulgaria coopère avec des entrepreneurs indonésiens. Le président Jokowi encourage les mécanismes de résilience sanitaire au sommet de l'APT. Le cacao de Rantzikki, Papoua a besoin d'investisseurs pour se rajeunir afin de gagner des exportations. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que la célébration de Noël risquait d'être annulée en raison de la flambée des cas de COVID-19 au Canada. Trudeau a appelé ses citoyens à mettre en œuvre des protocoles de santé stricts afin qu'il n'y ait pas de pic de cas à l'avenir. C'est ce qu'a dit Trudeau, cité par CNN samedi dernier. Une augmentation du nombre de cas de COVID-19 s'est produite au Canada en raison de la célébration de Thanksgiving le 12 octobre. En conséquence, les célébrations de Noël sont menacées d'être annulées afin d'éviter une propagation plus large du COVID-19. L'accumulation des cas de COVID-19 selon le Worldometre à compter de samedi a atteint 287 318 cas avec 10 828 décès et 230 646 guérisons. L'Organisation mondiale de la santé a délivré vendredi, le 13 novembre, un permis d'utilisation d'urgence pour le vaccin antipoliomyélitique NOP-V2, dont l'un a été produit par PT Biopharma Persero, une entreprise publique en Indonésie. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré cela dans une émission écrite vendredi, telle qu'elle a été reçue par l'agence de presse Antara à Jakarta samedi. Pour la première fois, l'Organisation mondiale de la santé a délivré un permis d'utilisation d'urgence pour les vaccins. Par conséquent, l'Organisation mondiale de la santé espère que cette étape pourra également être appliquée aux candidats vaccins COVID-19. Le vaccin NOP-V2 est un nouveau type de virus antipolio développé par un réseau collaboratif mondial d'institutions et d'experts de divers pays, l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio. Le réseau de la collaboration a été rejoint, entre autres, par Biopharma, une entreprise publique qui produit des vaccins en Indonésie, l'Université d'Anvers en Belgique, l'organisation non gouvernementale contre les maladies infectieuses dans les pays en développement, le National Institute for Biological Standards and Control en Angleterre et l'Université de Californie à San Francisco, États-Unis. Des milliards de citoyens vietnamiens ont évacué samedi lorsque le typhon Van Ko a commencé à souffler violemment vers le pays. L'AFP a rapporté que la tempête entraînerait des vents allant jusqu'à 100 km par heure dimanche dans la région près de Hue. L'autorité de gestion des catastrophes a déclaré que des milliards de résidents dans quatre provinces ont commencé à évacuer en prévision de l'impact de la catastrophe. Les médias d'État ont ajouté qu'il est possible que des centaines de milliards d'autres citoyens soient obligés d'évacuer. En outre, les autorités ont également fermé les aéroports et les plages au public. Il est également interdit à la communauté de pêcher en mer. Avant le cyclone Van Ko, une série de tempêtes avait ravagé le Vietnam au cours des 6 dernières semaines. Les autorités ont déclaré que la tempête, qui a provoqué des inondations et des glissements de terrain, avait fait 159 morts et 70 disparus. Selon un rapport de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, plus de 400 000 maisons ont été endommagées par la catastrophe à la suite de ces intempéries. L'ambassade de la République d'Indonésie à Sofia a enregistré un accord de partenariat entre Mustika Ratu Indonesia et le groupe Idea Bulgarie en organisant une inscription ouverte et une interaction virtuelle Trade Expo Indonesia à Sofia en Bulgarie. Le chef de l'ambassade de l'Indonésie à Sofia, Bahana Manggala Bara, à Antara Londres, a déclaré samedi que l'ambassade d'Indonésie à Sofia avait facilité la signature numérique de l'accord de partenariat par le groupe IDEA, assisté en direct par Mustika Ratu. Dans le même temps, les produits de gants de Star Glove Indonesia constituaient un pas vers la pénétration du marché bulgare. Il a ajouté que les entreprises indonésiennes, dont Kimia Pharma, et d'autres entreprises bulgares ont également continué à développer activement des réseaux. L'entrepreneur bulgare Ilian Dimitrov a déclaré que les produits indonésiens sont particulièrement adaptés au marché européen, en particulier en Bulgarie. Pendant ce temps, Andrei Adrev, un importateur bulgare qui a importé des meubles d'Indonésie, a témoigné que les produits d'ameublement indonésien sont de haute qualité et compétitifs. Le président Joko Widodo encourage les pays membres de l'ASEAN plus 3, ou APT, à se doter d'un mécanisme de sécurité sanitaire. Le président Jokowi l'a déclaré samedi au palais présidentiel de Bogor. Le président l'a exprimé lors d'une allocution virtuelle lors du 23e sommet de l'APT. Cela reflète l'expérience de la pandémie du COVID-19 avant qu'à l'avenir, les pays de la région puissent être préparés à faire face à de futures pandémies. Le président Jokowi a déclaré que chaque pays doit investir pour garantir l'accès à des services de santé abordables. Ces efforts amélioreront la résilience de la communauté, la préparation et la capacité de santé publique en cas d'urgence. De plus, selon le président, pour renforcer les mécanismes de sécurité sanitaire, on doit immédiatement développer l'industrie de la santé dans la région. Plantation de cacao à Ranciki, la région de Manokwari du Sud, Papouasie-Occidentale, n'a besoin que d'être replantée pour atteindre l'objectif de production de 1000 tonnes par mois. C'est ce qu'a dit le président de la coopérative Eiber Sud Ranciki, Yusuf Kawai, à Manokwari samedi. Il a déclaré que la superficie totale de ses plantations atteignait 1868 hectares. Le terrain est l'ancienne exploitation de PT Chocolat Transiki, qui n'est plus en activité depuis plusieurs années. Le gouverneur de la Papouasie-Occidentale, Domingos Mandajan, a espéré à la précédente occasion que la production de cacao de Transiki augmenterait pour produire une récolte de 1000 tonnes par mois. Le gouverneur estime que cela peut être réalisé car les terres disponibles sont encore très larges. Pour l'exportation, selon Youssouf, pour le moment, on ne l'a fait qu'en Angleterre. Un certain nombre d'acheteurs dans certains nombres de pays ont soumis des demandes, mais elles ne peuvent pas être satisfaites car la production est encore limitée. Voilà le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « Le 37e sommet de la NASE a produit 33 documents ». Le président Joko Widodo a assisté à une série du 37e sommet de la NASE par une vidéoconférence virtuelle depuis le palais présidentiel de Bogor, Jaffa de l'Ouest, jeudi le 12 novembre 2020. Lors de ce sommet, le Vietnam a agi en tant qu'hôte. La série de sommets de la NASE, qui a duré jusqu'à dimanche, a totalisé 17 séances de réunion auxquelles ont participé 10 chefs de pays ou gouvernement de la NASE et 8 chefs d'État ou de gouvernement des pays partenaires de la NASE. La série de sommets en particulier a discuté des mesures conjointes pour prévenir l'impact plus large de cette pandémie sur la région en mettant l'accent sur la priorité de la coopération en 2021, en particulier en ce qui concerne la présence et la production de vaccins pour la région. Le sommet a également discuté des priorités du développement économique dans la région avec des partenaires pour faire face aux impacts économiques et sociaux de COVID-19. L'une des initiatives menées par l'Indonésie lors de ce sommet est un effort pour construire un engagement commun avec la NASE pour rouvrir immédiatement la connectivité et restaurer l'activité économique dans la NASE par l'accord sur le corridor de voyage de la NASE. On espère que le TCA facilitera l'accès au voyage des hommes d'affaires des pays de la NASE dans de nouvelles situations normales et prêtant attention aux protocoles de santé. Le président Joko Widodo s'est félicité de la publication de la déclaration de la NASE sur un cadre d'accord de corridor de voyage ou TCA de la NASE. L'arrangement du corridor de voyage de la NASE a été précédemment proposé par le président Joko Widodo lors du 36e sommet de la NASE le 26 juin 2020. Le président Joko Widodo voit un autre optimisme, à savoir la signature du Partenariat économique régional global, ou abrégé en RCEP. Le RCEP a été signé avec succès après que les pays de la NASE ont négocié pendant environ 8 ans. Le 37e sommet de la NASE a produit 33 documents d'accord. Le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a transmis ces documents, y compris la déclaration de Hanoï sur la vision de la communauté de la NASE pour l'après 2025, le cadre de relèvement global de la NASE, la déclaration de Hanoï sur le renforcement des réseaux sociaux vers une communauté de la NASE cohésive et réactive, la déclaration de la NASE sur le tourisme numérique, la déclaration de l'adoption de l'initiative pour le plan de travail d'intégration asiatique 2021-2025, la déclaration de la NASE sur le cadre d'arrangement du corridor de voyage de la NASE et le récit de l'identité de la NASE. Le ministre d'État Pratikno, le ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi et le représentant permanent indonésien auprès de la NASE, Ade Padmo Sarwono, étaient également présents pour accompagner virtuellement le 37e sommet de l'ASEAN.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 15 novembre. On commence par le 15 novembre 1946, la négociation Linggarjati. La négociation Linggarjati est une négociation entre l'Indonésie et les Pays-Bas, à Linggarjati, Java de l'Ouest, qui aboutit à un accord concernant le statut d'indépendance indonésienne. On a signé les résultats de cette négociation au Palais Merdeka à Jakarta, le 15 novembre 1946, est légalement signé par les deux pays le 25 mars 1947. Dans cette négociation, l'Indonésie était représentée par Sultan Syahrir, les Pays-Bas étaient représentés par une équipe appelée la Commission Générale et dirigée par Wim Schermerhorn avec H.J. Van Mook, et Lord Killern, d'Angleterre ont agi en tant que médiateurs dans ces négociations. Le 15 novembre 1950, la naissance du joueur badminton indonésien Iis Sumirat. Iis Sumirat est né à Bandung, Java de l'Ouest, le 15 novembre 1950. Il était membre du badminton de Magnificent Seven en Indonésie dans les années 1970 avec Rudy Hartono, Lim Swee King, Chun Chun, Johan Wahyudi, Christian Hadinata et Ade Chandra. On connaît Iis Sumirat comme un joueur humoristique et excentrique sur et en dehors du terrain de badminton, même pendant les matchs. Un de ses célèbres comportements excentriques a eu lieu lors de la finale de la Coupe Thomas de 1979 contre le Danemark. Soudain, il a dansé à la Sundanese devant son adversaire Sven Pri. Iis Sumirat a remporté deux fois champion ou médaille d'or aux Jeux asiatiques en 1966 et 1970 et champion du monde en 1966 à Bangkok en Thaïlande. Le 15 novembre, la journée mondiale de maladies pulmonaires. On a commémoré le 15 novembre la journée mondiale de la maladie pulmonaire obstructive chronique, ou abrégée en MPOC. La MPOC est un terme utilisé pour un certain nombre de maladies qui affectent le poumon à long terme. Cette maladie bloque le flux d'air des poumons de sorte que la personne aura des difficultés à respirer. Au début, la journée mondiale de la MPOC était un événement annuel de l'Initiative mondiale contre les maladies pulmonaires obstructives chroniques qui est commémorée tous les mercredis de la deuxième ou troisième semaine de novembre. Depuis 2002, la journée mondiale de la MPOC est célébrée chaque année le 15 novembre. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Ketika rembulan muncul mercik air jatuh di bebatuan. Hidup dalam kedamaian. Indah, indah alamku. Teduh, teduh hidupku. Katakan ada bunga di hatimu, bunga di hatimu. Katakan ada sinar di kabungmu. Dan katakan ada bunga di hatimu, bunga di hatimu. Katakan ada sinar di kabungmu. Jiwaku terang di malam itu. Jiwaku terang di malam itu.
C'était la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voici mon Indonésie intitulé « Le gouvernement organise un grand dessin pour la jeunesse indonésienne ». Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Zainuddin Amali, a déclaré que le gouvernement était très sérieux d'améliorer le développement de la jeunesse indonésienne, en particulier pour faire face à la prime démographique à l'avenir. Lors de l'ouverture de la réunion nationale de coordination du secteur de la jeunesse de 2020 virtuellement au bureau du ministère de la Jeunesse et des Sports à Jakarta lundi, le ministre Zainuddin Amali a déclaré que l'une des choses que le gouvernement essayait de réussir le développement de la jeunesse était la formulation de politiques sous la forme d'un grand dessin de la jeunesse. C'est ce qu'a déclaré le ministre Zainuddin dans une déclaration écrite reçue mardi par l'agence de presse Antara. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, le grand design est un paramètre ou une mesure du succès du développement de la jeunesse indonésienne dans chaque activité de jeunesse organisée. Le grand design sera conforme à l'indice de développement des jeunes, Agence nationale de développement ou IPP Bappenas. À la préparation du grand design, il faut être en synergie avec d'autres ministères et agences. Le développement, l'autonomisation et l'encadrement des activités de la jeunesse, selon lui, ne sont pas seulement les attributions du ministère de la Jeunesse et des Sports, mais aussi de tous les acteurs indonésiens. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, le programme du ministère est conforme à ce qui est indiqué dans le plan national de développement à moyen terme. Les jeunes sont les principaux acteurs et sujets de développement. Le ministre Zainuddin a souligné que le gouvernement encourage fortement les jeunes, qui représentent 24% de la population totale de l'Indonésie, à être créatifs, innovants et indépendants et à atteindre l'IPP. L'évaluation de l'IPP est basée sur 15 indicateurs qu'on a regroupés respectivement en 5 domaines, à savoir l'éducation, la santé et le bien-être, l'emploi et les opportunités d'emploi, la participation et le leadership, le genre et la discrimination. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Zainuddin Amali, espère que les résultats de la réunion de coordination nationale serviront de recommandation au gouvernement dans l'élaboration de politiques de jeunesse à l'avenir. C'est tout mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouveau lieu touristique à Yogyakarta. En utilisant le débit de la rivière Opak et les rochers au bord de la rivière qui ressemblent au Grand Canyon en Arizona, ce site touristique est très populaire. Cet endroit s'appelle le parc touristique Watu Kapal. Il s'appelle le parc touristique Watu Kapal, ou en français bateau de pierre, car parmi les rochers se trouve l'une des pierres en forme de bateau. Au parc touristique de Watu Kapal, les visiteurs peuvent faire des activités amusantes telles que le tube de rivière et le saut de hauteur. Bien sûr, il faut bien savoir nager et avoir le courage. La forme distinctive de la falaise, l'eau de la rivière verdâtre, claire et propre, avec des plantes naturelles sur la falaise, le rendent très beau et agréable. En plus, l'air est très frais. Les arbres ombragés deviennent un paysage naturel rafraîchissant. Cela semble incomplet si nous visitons cet endroit sans capturer les beaux moments là-bas. Il existe de nombreux endroits magnifiques où on peut prendre des photos. Chers auditeurs, l'emplacement de la visite de Watu Kapal est dans le hameau de Klenggotan, le village de Srimulyo, le district de Piyungan, la région de Bantuan. Cet emplacement est à environ 13 km du centre de Jogja en direction de la rue Wonosari et prend environ 25 minutes de trajet. Parce que cet endroit est encore nouveau en tant que lieu touristique, le gérant n'a pas encore imposé de billet d'entrée. Chers auditeurs, si vous êtes à Yogyakarta, prenez le temps de visiter le parc touristique de Watu Kapal, un nouveau site touristique de Jogja qui offre des falaises à l'architecture naturelle et distinctive faite directement par la nature pour que les humains puissent en profiter. Alors, lorsque vous visitez cet endroit, assurez-vous de rester propre et de ne pas jeter de déchets.
Mau untuk
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Cette édition soulève le sujet de l'aéroport de Soekarno-Hatta recevant une accréditation de protocole de santé équivalente à l'aéroport de Singapour Changi. L'aéroport international Soekarno-Hatta a reçu l'accréditation dans le secteur de la santé et de l'hygiène, à savoir l'accréditation sanitaire des aéroports de l'Aéroport Council International. Cette accréditation a été donnée parce que l'aéroport de Soekarno-Hatta a été en mesure de mettre en œuvre des protocoles de santé pour empêcher la propagation du COVID-19. Le président directeur de PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, dans sa déclaration du jeudi 12 novembre 2020, a déclaré que les aéroports d'Angkasa Pura II avaient mis en œuvre un modèle de gestion et d'exploitation qui suit les meilleures pratiques de l'industrie mondiale. Selon Awaluddin, jusqu'à présent, seuls deux aéroports ont reçu l'accréditation de l'Aéroport Council International, ou abrégé en ACI. Outre l'aéroport de Soekarno-Hatta, ACI fournit une accréditation à l'aéroport de Changi ou à l'aéroport international de Singapour Changi. L'accréditation a été accordée après que ACI a vu le protocole de santé mis en œuvre à l'aéroport. Le protocole doit être conforme aux directives Aviation Business Restart and Recovery de l'ACI et à la recommandation du groupe de travail sur le rétablissement de l'aviation du Conseil de l'OACI. Les sujets évalués par Airport Council International comprennent le nettoyage et la désinfection, le maintien de la distance dans les zones possibles et la protection du personnel. Ensuite, la disposition des chambres, la communication avec les passagers des avions et les installations pour les passagers des avions. L'évaluation est également effectuée sur l'ensemble de la zone passagère. Par exemple, l'accès au terminal, les zones d'enregistrement, les contrôles de sécurité, les portes d'embarquement, les salons, les commerces, la restauration, les équipements tels que le garbarata, les escaliers mécaniques et les ascenseurs, les zones d'immigration et leurs installations, les zones de collecte de bagages et les sorties d'arrivée. Pendant ce temps, le directeur général de la T-World, Luis Felipe de Oliveira, a déclaré que son parti avait examiné les preuves rapportées par l'équipe sur le terrain. Grâce au processus d'évaluation de l'équipe ACI, l'aéroport international de Soekarno-Hatta a été en mesure de fournir un aéroport sûr pour tous les utilisateurs de services aéroportuaires. Voilà l'Indonésie en couleur. Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Cette édition, je parle d'une chanson de la belle chanteuse Aya Anjani. Elle est la fille du claviériste légendaire du groupe God Bless, Yoki Suryo Prayogo. Bien que son nom ne soit pas aussi célèbre que son père, Aya Anjani a réalisé de nombreuses œuvres. En 2019, Aya a repris une chanson à succès des années 1980 popularisée par Krishe. La chanson est intitulée Juita, qui a été écrite par son défunt père et Junaidi S. La chanson a été réarrangée en mémoire d'un an après le départ de Yoki en 2018. La chanson Juita a été chantée à nouveau par Aya avec une approche de production plus moderne sans changer l'arrangement et l'essence de la chanson originale. Les noms Petra Sihombing et Jonathan Mono ont également été choisis pour produire cette chanson. En plus d'être l'une des chansons chefs d'œuvre de l'Indonésie, elle a admis qu'à cette époque, elle aime vraiment des anciennes chansons au passé. Même avec des arrangements modernes, Aya espère que la mémoire qui représente la génération à cette époque se fasse sentir. Elle souhaite que cette chanson puisse encore représenter chaque génération. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Juita, chantée par Aya Anjani. Bonne écoute.
Marah dahana
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.